au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Bonjour Claire Rodier.
Bonjour.
Merci d'être venue ce dimanche à Beurre FM nous présenter Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Je rappelle que ce livre, Claire Rodier, a été fait avec la collaboration de Catherine Portevin. Claire Rodier, vous êtes cofondatrice du réseau Euro-Africain, Migrants Europe et Juriste Logistique, groupe d'information et de soutien des immigrés. Vous travaillez plus particulièrement sur les politiques européennes d'immigration et d'asile. Et quand je dis vous travaillez plus particulièrement sur les politiques européennes d'immigration et d'asile, ça fait bien bien longtemps que vous travaillez sur ces questions d'immigration, Claire Rodier.
Ah bah oui, ça fait longtemps.
C'est un parcours professionnel, un parcours de femme militante, parcours d'engagement.
Tout mélangé. Oui, parce que je travaille au GISTI depuis maintenant. Enfin, je milite et je travaille au GISTI depuis une trentaine d'années. Et le réseau Migre Europe, qui est un peu le prolongement du GISTI au-delà des frontières françaises, il s'est créé dans les années 2000. Donc ça fait bien longtemps, ouais.
Alors ça fait bien longtemps, j'avais envie de vous demander en introduction des questions qui viendront autour de ce livre très pratique et très très outil pédagogique, j'allais presque dire, puisqu'il s'agit de questions très récurrentes qui reviennent sur pourquoi les immigrants, pourquoi on quitte son pays, pourquoi qu'est-ce qu'un hotspot, combien de réfugiés les pays européens peuvent-ils accueillir, combien de migrants sont entrés dans l'Union européenne, etc., etc. Mais avant, j'avais envie de vous demander, puisque ça fait si longtemps que vous travaillez, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui, après quelques décennies de réflexion, de travail, de recherche, d'enquête sur ces questions migratoires? Aujourd'hui, on en est où?
Alors, on en est où? On pourrait dire qu'il y a à la fois une grande continuité dans les logiques générales
de logique politique migratoire,
logique politique de l'Europe, de la France et de l'Europe, qui consiste à considérer que on serait nous Européens sur un territoire, nous qui vivons en Europe, sur un territoire qu'il faut protéger, et en tout cas protéger des éventuels envahisseurs, voilà. Donc avec toute une série de lois, par exemple en France, une trentaine de lois depuis les années 70, qui organisent la protection des frontières et le filtrage des étrangers en fonction plutôt des besoins de notre pays. Pour l'Europe, c'est un peu pareil, en fonction des besoins des pays d'accueil. Et donc ça, là-dessus, il y a une continuité. Et en revanche, on a l'impression qu'on a franchi un seuil depuis 3-4 ans, en ce sens que ces politiques, qu'on peut appeler globalement des politiques de fermeture, ces politiques de tri, ces politiques d'hostilité, de rejet vis-à-vis des étrangers, sont complètement en inadéquation avec quelque chose qui est une donnée général, qui n'est pas un problème comme on a souvent tendance à le présenter quand on est un responsable politique de pays industrialisés, qui est le phénomène migratoire, le phénomène de la mobilité humaine. Et il me semble que ça fait longtemps que les militants, mais pas que les militants, hein, beaucoup de chercheurs et tout ça disaient la migration, c'est quelque chose de complètement normal, qui a toujours existé, qui existera toujours.
Celle de la circulation de ces hommes, de ces femmes qui quittent un pays.
Ça va avec la mondialisation, et ça s'est d'ailleurs accru avec un processus de mondialisation depuis le début des années 60, la facilitation des moyens de transport, la libéralisation des échanges, la suppression des contrôles aux frontières comme il y a eu dans l'Union européenne depuis un peu avant les années 2000. Donc c'est comme si la mobilité humaine était quelque chose de nié dans les raisonnements, les analyses des responsables politiques qui sont pourtant censés faire de la politique avec la réalité et pas avec un truc fantasmé qui serait on va se protéger dans une Europe forteresse où on serait tous entre blancs ou presque blancs et les autres ne viennent que si on le veut.
Et pourtant ces hommes et ces femmes sont là, ils sont en bas de chez nous par tous les temps. Dans la rue, assis ou endormis sur les bouches d'aération du métro, parce qu'il y fait meilleur que sur les bitumes. On passe ou on s'arrête, on pose une pièce, du linge ou à manger, et on ne les regarde pas. Ça, c'est le sentiment que j'avais envie de donner, parce qu'il arrive qu'on ne voit pas, ou on ne veut pas voir, ces migrants qui sont en bas de chez nous, qui me fait rappeler un titre d'un ouvrage d'une collègue, sans doute, une universitaire, Isabelle Coutant, qui avait écrit... Les émigrés en bas de chez soi, que j'avais accueillis ici, quand ils sont là, ils, j'allais presque dire faut faire avec. Mais nous, citoyens, nous, vous, nous, moi, nous devons faire avec cette composante qu'est les, que sont les migrants et les réfugiés dans, dans cette société française, dans cette Europe. On y reviendra dans une deuxième partie de notre rencontre sur ce que fait l'Europe. Mais l'aspect politique est intéressant et on va s'y arrêter dans un instant. Et c'est pour ça que votre livre est très intéressant, ce petit livre, je disais un petit livre outil, parce qu'il interroge... il donne les définitions de ce que sont les migrants et les réfugiés. Par exemple, quand on sait que, voilà, vous dites réponse aux indécis, aux inquiets, aux réticents, moi j'aurais presque envie d'ajouter réponse aux politiques aussi, réponse aux xénophobes aussi. Enfin, vous doutez bien qu'il y a d'autres interrogations aussi qui font qu'il faut s'adresser aussi à ceux-là. Et quand on s'adresse à ceux-là, ben on leur dit, il faut dire qui sont les migrants et qui sont les réfugiés. Les migrants sont ces hommes et ces femmes qui quittent un pays pour tenter une vie meilleure en France, parce que pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, on y reviendra, il y a des nouveaux flux migratoires. Les réfugiés, c'est fuir la guerre, la persécution. Ils ont des mêmes raisons de partir, enfin, ils ont des raisons de partir et d'être là, pas tout à fait les mêmes, je viens de le dire, mais les uns... certains, enfin, les réfugiés sont protégés par la Convention de Genève. Donc, donnez-nous, si vous le voulez bien, dans une première, on ne pourra pas toutes les évoquer, nous n'en aurons pas le temps, mais en tout cas, cette définition du migrant et des réfugiés, parce qu'elle est importante. Elle ouvre d'ailleurs votre, le titre, et ça veut bien dire que les choses sont différentes, et puis c'est souvent cet amalgame qui est fait.
Oui. Parce que c'est la question quand même la plus souvent posée. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça, le bouquin, en fait, il ne s'adresse pas tellement aux politiques, parce qu'en général, les politiques savent.
On est d'accord, bien sûr.
Il ne s'adresse pas non plus à l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle est bloquée, et c'est vrai que notre projet... c'était plutôt pour les gens qui ne sont pas franchement hostiles aux étrangers, mais qui ont des sentiments de peur et qui se disent, mais oui, d'accord, on veut bien ne pas être raciste, mais quand même pas en bas de chez moi.
Voilà. Je veux pas les voir.
Donc c'est plutôt ça la cible, si on peut dire, si on parle dans ces termes-là. Alors après, migrants et réfugiés, ben oui, ça ouvre le bouquin parce que c'est la première question qui nous est souvent posée. Et vous avez dit, ils partent pour des raisons différentes, pas forcément en fait. Je crois que
il y a la persécution d'un côté.
Très souvent, c'est très très mélangé.
C'est
de plus en plus mélangé. Quand vous avez, aujourd'hui un paysan malien, par exemple, qui quitte sa terre parce que elle est plus difficile à cultiver parce qu'il a plus parce que les récoltes ne lui rapportent plus et donc il va aller en ville d'abord et puis ensuite il va essayer de franchir une frontière parce qu'en ville ce sera difficile aussi. Donc on dit c'est un migrant économique parce que il n'arrivait plus à vivre de ses cultures. Mais pourquoi il n'arrive plus à vivre de ses cultures? Très souvent c'est parce que il y a un marché mondial, par exemple du coton, qui fait que les États-Unis vendent 10 fois moins cher que pour le coton de leur cotonnier du Sud que le paysan malien. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis subventionnent leurs gros producteurs de coton. Et il peut s'en suivre à travers le monde des répercussions qui vont aller atteindre jusqu'à ce paysan malien qui lui-même peut être aussi en conflit avec les conséquences de la lutte contre le terrorisme menée en Europe à travers des dirigeants africains sur la frontière. Et donc, quand cette personne va partir de chez lui, il est a priori migrant économique, mais en réalité, le fond est très politique.
Oui, bien sûr.
Et puis, ça, c'est une donnée. Les causes de départ sont très souvent très mêlé. Et l'autre chose, c'est que quelqu'un qui part, je reprends l'exemple du paysan malien qui part de chez lui, qui va traverser le désert, qui va arriver en Libye, où il sera persécuté comme esclave, comme travailleur forcé, il devient quelqu'un qui est persécuté. Et donc, il va rentrer dans les critères de cette fameuse Convention de Genève sur les réfugiés qui date de 1951 et qui a été conçue dans un temps de guerre froide où le blanc et le noir étaient très nets, les clivages entre les bons et les mauvais pour le monde occidental était très précis. Mais
cette convention de Genève,
plus là aujourd'hui, quoi. Voilà.
Mais cette convention de Genève, elle a la responsabilité, voire l'obligation, d'accompagner ces réfugiés.
Elle entraîne, en tout cas pour les pays qui l'ont signée, c'est-à-dire tous les pays européens, l'obligation d'examiner la demande de toute personne qui s'en revendique et d'accorder un statut protecteur et un droit de séjour à toutes ces personnes qui sont reconnues comme réfugiées.
Et est-ce qu'elle le fait bien ?
Et elle le fait. La Convention, elle ne fait rien, mais les pays l'interprètent de façon très diversifiée. Et on en a un exemple en Europe parce que, par exemple, les Afghans obtenaient systématiquement le statut de réfugié au Danemark ou en Suède il y a quelques années. À 100%, alors qu'il l'obtenait à 30% au Royaume-Uni ou en Italie. Donc, on
voit bien
que c'est complètement
subjectif. Qui ne
ils ne sont pas condamnés, il n'y a pas de cour pour juger les pays.
D'accord.
Chaque pays interprète la Convention de Genève comme il le veut. Donc, c'est un instrument qui est absolument nécessaire et qui est en même temps extrêmement injuste parce qu'on s'en sert comme un outil de la politique migratoire, ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, on ne peut pas canaliser ou contingenter les réfugiés en fonction des capacités d'accueil supposées des pays. Et c'est bien ça qui se fait aujourd'hui.
Alors après ce parcours du combattant, il a un statut de réfugié, ce réfugié.
Si on lui reconnaît.
Si on lui reconnaît, j'allais y venir. Mmh. Et comment va-t-il procéder administrativement à avoir des droits en tant que réfugié dans la société française?
Alors,
La France,
comme les autres pays européens d'ailleurs, réserve des droits qui sont à peu près homogènes à toutes les personnes à qui est reconnu le statut de réfugié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de personnes à qui est reconnu le statut de réfugié, dont des droits au séjour, bien sûr, droit au travail, mais à la santé. Droit à chercher du travail, protection sociale, voilà. Le problème, il est plutôt en amont, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas reconnus comme réfugiés. Il faut savoir qu'en Europe, l'Europe est un continent qui reçoit très très peu de réfugiés, qui accorde très peu le statut de réfugié, et qu'aujourd'hui, 80% des réfugiés dans le monde se trouvent dans des pays en développement, et essentiellement en Afrique.
Ouais.
La grande majorité des réfugiés. Donc quand l'Europe crie que c'est la crise migratoire, que c'est la crise des réfugiés, qu'elle est envahie, c'est absolument pas en adéquation avec la réalité des chiffres. Quand en 2015, on a parlé d'une crise migratoire sans précédent, c'était parce qu'il y avait à peu près 1 million de personnes qui avaient franchi les frontières de l'Union européenne en un an. Mais ça représente une toute petite partie du nombre de réfugiés qui étaient arrivés un peu partout, et notamment quand on prend l'exemple des réfugiés syriens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au Liban, par exemple, un quart de la population est syrienne. C'est comme si aujourd'hui, il y avait 25 millions de Syriens en France, quoi. Donc, on est dans des chiffres complètement... Et alors que nous, c'est quelques dizaines de milliers.
Hein. Ouais.
Donc, il y a aussi ce fantasme de... on va être envahi, mais la réalité, non. C'est-à-dire, effectivement, la France accorde le statut de réfugié à certaines personnes et ces personnes ont des droits, mais c'est infinitésimal par rapport à la réalité des besoins de protection dans le monde.
Claire Redier nous parle de migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. On va la retrouver dans un instant. Je rappelle que ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Claire Redier est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Il a été écrit en collaboration avec Catherine Portevin, surtout dans une présentation, une introduction très très intéressante qui rappelle justement ce que sont les migrants et les réfugiés et quelles interrogations nous pouvons avoir aujourd'hui sur l'accueil qui leur est réservé. On parle de crise de migration, moi j'avais envie de dire de crise d'hospitalité et d'accueil plutôt.
Crise de l'Europe,
elle est ailleurs que du côté de la crise des migrants, nous en sommes d'accord. Alors justement, à propos de ce livre pratique, très outil à destination de celles et ceux qui s'interrogent sur ces questions de migrants et des réfugiés, il y a d'autres questions qui sont aussi importantes à souligner, qui sont, vous l'avez déjà dit, comment savoir s'il fuit pour des raisons économiques ou politiques, vous en avez parlé d'une certaine manière, mais les migrants, quand ils viennent en France ou en Europe, comment ils ont choisi le pays vers lequel ils veulent aller, les migrants, selon vous ? Et auprès du.
Alors, je pense que.
Par rapport à votre travail et à l'analyse.
Là, je pense qu'on peut dire que de plus en plus, et c'est un peu contraire à l'imaginaire qu'on a, les migrants ont des projets migratoires, y compris s'ils sont réfugiés. On avait été. Enfin, l'opinion, si on peut l'appeler ainsi, avait été un peu étonnée. En 2015, au moment de l'arrivée des Syriens, des arrivées un peu massives de Syriens, qui pour une fois avaient un visage. D'habitude, on parle des migrants comme des grappes de personnes sur des bateaux loin. Mais vous vous souvenez qu'à cette époque, mai-juin 2015, tout à coup, la focale s'est un peu rapprochée. On a regardé qui c'était et on s'est aperçu que c'était des gens, d'abord qui parlaient anglais, ce que beaucoup de Français ne font pas, qui disaient d'où ils venaient, qui n'avaient pas l'air de pauvres hères paumés et misérables qui cherchaient à tout prix une terre d'accueil. C'était des gens qui avaient un vrai métier et puis qui avaient un projet migratoire. Et en particulier, certains disaient on ne veut pas rester en France parce qu'on veut que nos enfants soient éduqués dans des collèges anglais, par exemple. Voilà. Donc, mais il y a toutes sortes de profils. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en général, les gens cherchent à se rapprocher soit de leur famille, soit de leur communauté, là où sont implantés déjà beaucoup de membres de leur région ou de leur village ou de leur ville. L'héritage du colonialisme est très présent dans les projets migratoires. C'est pas un hasard si encore maintenant les gens du Maghreb privilégient la France. Ou pour les Tunisiens, l'Italie, par rapport à d'autres pays, et que les anglophones, les membres de l'ancien Commonwealth, préfèrent aller au Royaume-Uni. C'est complètement logique et n'importe qui ferait pareil. Un des problèmes des politiques migratoires de l'Union européenne, c'est de penser qu'on peut canaliser les gens et les répartir en fonction de critères qui sont des critères totalement arbitraires par rapport à la situation personnelle de ces gens. Déjà. Comme si, mais ça c'est un petit peu ce que traduisent toutes ces politiques, comme si les migrants n'étaient pas des personnes, justement, des personnes avec une individualité, des projets, des attentes, mais comme si c'était des pions, juste un nombre. Et donc, ça fait 20 ans que l'Europe essaye d'imaginer des procédés qui feraient qu'on peut répartir les gens par rapport à des critères quantitatifs dans les différents pays européens. Et ça, rien n'a jamais marché. Donc, il y a eu plein de lois, et notamment un fameux règlement Dublin dont on parle beaucoup, que tous les militants connaissent parce qu'il produit des gros dégâts sur la situation des personnes.
C'est à Dublin qu'ils doivent repartir.
C'est juste un nom. C'est comme la Convention de Genève.
C'est
un règlement européen qui dit que la demande d'asile de quelqu'un doit être examinée dans le premier pays où il est arrivé.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est complètement absurde et ce qui a provoqué notamment ce qu'on a appelé la crise, puisque c'est pour ça que les gens se retrouvaient essentiellement en Italie et en Grèce, parce que par définition, c'est souvent par là qu'ils arrivent.
Par la
Méditerranée. Mais c'est aussi pourquoi les pays limitrophes comme la Hongrie, la Pologne sont des pays qui, vers lesquels parfois on veut renvoyer des demandeurs d'asile qui ne veulent absolument pas y aller et qui, s'ils y sont renvoyés, ça arrive, reviendront. Donc on assiste à une espèce de ping-pong et de noria de demandeurs d'asile à cause d'une politique qui est absurde et qui n'est pas fondée sur la personne, mais qui est fondée sur des logiques étatiques qui sont complètement inadéquates à la réalité de la situation.
Est-ce que vous, Claire Rodier, dans ce travail que vous menez au sein du GISTI, puis il y a d'autres associations, la CIMAD et d'autres encore, vous interpellez, je parlais du politique tout à l'heure, parce qu'il me semble aussi qu'il y a là de la responsabilité des politiques d'immigration qui sont le fait de cette absence de politique ou cette mauvaise politique, on va dire aussi comme ça, fait qu'il y a justement ce décalage entre l'humanité de ces hommes et de ces femmes qui quittent leur pays pour venir ici, en France ou en Europe, puisque vous avez souligné les questions européennes, mais faudrait à la fois l'engagement, la détermination à la fois des militants, des citoyens, de vous et moi, j'allais dire, pour dénoncer, pour interpeller les politiques, pour qu'il y ait une véritable politique d'immigration.
Ouais, alors, Bon, Ogesti, on n'est plus tellement... Enfin, ça fait assez longtemps qu'on...
Vous êtes peu entendu, vous
non,
êtes...
qu'on interpelle même plus directement et qu'on...
Parce qu'il n'y aurait pas d'écoute.
On se fait peu d'illusions sur la capacité, la volonté des responsables politiques à prendre en main de façon sensée et raisonnable les questions migratoires. On existe depuis les années 70 et les alternances politiques nous ont montré que de gauche comme de droite, à partir du moment où on est dans un gouvernement, on n'est plus capable de raisonner parce qu'il y a d'autres impératifs qui s'imposent, notamment... La tentation de se servir des étrangers comme d'un bouc émissaire qui est toujours présente.
Bien sûr.
Moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui et là aussi, depuis quelques années, on l'a vu à l'œuvre, à la mobilisation des citoyens.
Citoyennes, bien sûr.
S'est traduite ces derniers temps de façon très, très concrète. On pense bien sûr à la situation dans le Calaisis, où il y a énormément de militants qui ont été apportés, qui vivent la solidarité. La Roya, bien sûr. Maintenant, c'est la frontière espagnole étant devenue un des pôles d'entrée. C'est dans la région de Bayonne, Biarritz, qu'on voit ces solidarités à l'œuvre. Et un peu partout en France, en fait, on a vu émerger des mouvements de gens qui n'étaient pas spécialement ni politisés ni militants, mais qui simplement ont vu des personnes à côté d'eux à qui il fallait apporter vraiment non seulement une aide, mais simplement de la... ne serait-ce que juste de l'humanité.
De l'humanité.
Donc ça veut dire héberger, ça veut dire chercher des fonds pour nourrir, ça veut dire aider à s'insérer, ça veut dire s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants, scolariser, etc. Et je pense que ça viendra plus de là, les changements de la base, si on peut dire, y compris avec des réseaux européens qui s'organisent de plus en plus, des réseaux de citoyens. Je pense que les politiques, s'ils finissent par comprendre un jour, ce sera à cause de la pression, cette pression citoyenne qui va manifester d'une façon ou d'une autre que les politiques qui sont menées ne conviennent pas, que par l'incantation, on dit voilà, il faudrait faire ça, et par l'Assemblée nationale ou Parlement européen, je dois dire que je n'y crois plus.
Mais on va rappeler quand même que sur cette dimension de solidarité de plus en plus que vous évoquez, il y a quand même eu, dans un autre temps, puisqu'il est maintenant annulé, je crois, ce délit de solidarité, mais il y avait une condamnation de celui ou de celle qui hébergeait et qui aidait un migrant. Donc c'était considéré que c'était un délit de solidarité. Et si je ne me trompe, c'est aussi ce travail, enfin la démarche de... Cédric Herrou, de la Roya, avec d'autres, qui ont mené vraiment campagne pour que ce délit de solidarité soit annulé. C'est une avancée, là, pour dénoncer...
C'est une demi-victoire.
Une demi-victoire. Une avancée, c'est pour ça que je ne parle pas de victoire.
Ouais. En réalité, ça pèse toujours un peu, comme une épée de Damoclès, cette histoire. La loi française prévoit qu'on peut condamner quelqu'un, poursuivre et condamner quelqu'un, pour le délit, qui ne s'appelle pas délit de solidarité, c'est nous qui l'appelons comme ça, pour le délit d'aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière. La loi, et l'origine de la loi, c'est très ancien, c'était plutôt pour condamner les pratiques des passeurs, de gens qui, en fait, se faisaient de l'argent sur le dos des étrangers, en les aidant à franchir clandestinement les frontières, moyennant finances et parfois très chères. Donc c'était plutôt pour lutter contre l'exploitation des victimes. Ça s'est complètement transformé pour devenir un instrument de la lutte contre l'immigration irrégulière, y compris quand cette immigration est irrégulière, à cause de lois injustes. Et donc, il y a énormément de gens qui prennent le contre-pied des lois qui refusent de délivrer des papiers à des personnes qui devraient en avoir et qui vont s'engager pour les aider à rester en France ou à passer en France. Ça a été le cas, effectivement, des militants de la vallée de la Roya. Mais avant Cédric Herrou, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés de façon assez anonyme parce qu'ils avaient hébergé, parce qu'ils avaient transporté, aidé des gens sans papier, tout simplement. Et ça, depuis pas mal d'années. Il y a eu une recrudescence et une très grande visibilité de poursuites systématiques dans la vallée de la Roya. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Cédric Herrou a été condamné. pour aide au séjour irrégulier d'étrangers, parce qu'il avait accueilli énormément de gens sur son terrain qui étaient sans ressources, sans papiers, mais aussi sans rien, complètement démunis, dans un dénuement total, y compris des mineurs. Et il a été cette affaire a été portée devant le Conseil constitutionnel, qui a posé le principe de solidarité qui est inscrit dans la Constitution, de fraternité plutôt, comme qui a rappelé que ce principe de fraternité constitutionnelle, liberté, égalité, fraternité, devait s'appliquer dans les cas de... Et que quand quelqu'un qui est poursuivi pour délit d'aide à l'entrée arrive à justifier qu'il a agi au nom de la fraternité, à ce moment-là, on ne peut pas le condamner parce que... Donc c'est très important, et ça a été un seuil très important dans cette lutte qu'on mène contre le délit de solidarité, mais... Il reste que ce sera toujours au juge d'évaluer si jusqu'où a été l'engagement de la personne. Et si le juge considère que il y avait un peu de fraternité, mais aussi un intérêt, il pourra toujours condamner. C'est pour ça que je disais, l'épée de Damoclès, elle reste. Sur le plan symbolique, c'est une victoire importante. Surtout que Cédric Herrou a été très médiatisé et que donc il porte bien cette... ce combat, il l'incarne bien, mais on n'est pas à l'abri d'un retour de bâton et de juges qui diront quand on veut... parce que c'est très dissuasif. Hein. Quand on cherche à écarter les migrants d'un endroit, comme on l'a fait à Calais, on les chasse, on prend les CRS, on les met dans un car, on les éloigne, ils reviennent après, mais au moins on a montré qu'on était actif. Et la deuxième étape, c'est de taper sur ceux qui les aident. Parce que là, ça devient très dissuasif. Parce que si partout, les gens ont peur de prendre des peines d'amende très élevées, voire de la prison, à ce moment-là, la solidarité, elle va régresser. Et on ne va plus avoir que des super résistants. Tout le monde n'a pas une âme de résistant. Et,
Et les hébergements solidaires qui se développent de plus en plus au travers de l'association Welcome, par exemple, ne sont pas menacés quand on...
Pour l'instant, non. Mmh. Mais on pourrait imaginer que... le problème, c'est ça. Quand on a un article dans une loi qui est menaçant, même s'il n'est jamais appliqué, on sait qu'on change de régime, on a l'extrême droite au pouvoir demain. Il s'appliquera. Et il s'appliquera, y compris contre... l'hébergement solidaire, dans la plus grande tradition fraternelle et œcuménique.
On se retrouve dans un instant avec Claire Redier.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Claire Rodier. Elle est l'auteur de Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, un livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Je vais vous poser une dernière question, si vous le voulez bien, Claire Rodier. Je rappelle que votre livre Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, qui vient de paraître aux éditions La Découverte, donne à comprendre un certain nombre de questions. Il y en a quoi, 23 en tout cas, et justement je tombe sur la dernière. Souvent on a entendu ce que vous soulignez comme question, justement, ne devrait-on pas plutôt les aider à rester chez eux? On dit, puisqu'on ne peut pas les accueillir ici, il n'y a pas de boulot, pourquoi ils ne restent pas chez eux, au moins il y a leur famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on entend à la
ça
fois...
Ça paraît de bon sens.
Voilà, ça paraît généreux, et puis de dire, les pauvres, ils ne sont pas bien là, mais voilà, c'est mieux chez eux.
C'est mieux chez eux.
Voilà. S'ils sont là, c'est que ce n'est pas mieux chez eux.
Ce serait mieux chez eux, donc il faut les aider à rester chez eux, puisque... Par définition, c'est l'endroit où on est né, où on est censé être le mieux. Le problème de ce raisonnement-là, c'est qu'il est complètement unilatéral. C'est-à-dire que les gens qui disent ça, qui sont en général de bonne volonté, ce sont les mêmes qui vont encourager leurs enfants à partir à l'étranger pour connaître le monde, qui sont très contents des programmes Erasmus. Tous les jeunes en Europe, etc.
Faire une expérience,
qui ne trouvent pas forcément dommage d'aller s'expatrier pendant quelques années pour faire carrière et puis qui reviennent après en France éventuellement. Mais c'est comme si ces raisonnements-là, ils ne pouvaient pas s'appliquer à un jeune Africain ou un jeune Afghan, parce que pour eux, c'est mieux d'être chez eux. Donc on voit bien ce qu'il y a derrière ce raisonnement. Ce n'est pas vraiment c'est mieux pour eux, c'est mieux pour nous que chacun choisisse ses choix, voilà. Chez soi. Nous, on a le droit de voyager absolument partout. Vous savez qu'un passeport français permet d'aller sans visa dans à peu près 150 ou 170 pays. Un passeport
subsaharien ou maghrébin ou soudanais,
c'est
oui.
15 pays, quoi. Et ça paraît complètement normal. Donc on est dans un monde où ce raisonnement là c'est mieux pour eux, c'est un monde où ça paraît entendu que il y a une sorte d'apartheid mondial, qu'il y a ceux qui sont bien chez eux et bien ailleurs, et qui peuvent aller partout et revenir, et donc oui, c'est mieux pour nous de revenir,
et les autres peuvent rester
et les
chez
autres
eux.
Il faut qu'ils restent chez eux, voilà. Donc ce qui est de gênant, il y a ça, sur le plan comme ça, un peu philosophique, c'est ça qui me gêne dans ce raisonnement. Et l'autre chose, c'est que ça se traduit ensuite par des politiques qui s'appuient sur cette bien-pensance à travers des programmes de coopération où on envoie de l'argent à des gouvernants qui d'ailleurs en font souvent un mauvais usage, dans l'idée que si on arrose ce pays-là, ou si ça va aider la population à être fixée, et ça va justifier des politiques de fermeture en disant, parce que souvent ça se traduit par du donnant-donnant. On va aider à travers la coopération un pays à se développer, soi-disant, et en échange, on va obtenir de ce pays qu'il réadmette ses ressortissants en situation irrégulière, qu'il renforce le contrôle de ses frontières pour éviter que les gens ne pénètrent en Europe. Donc, on voit que cette idée, c'est mieux pour eux, aidons-les à rester chez eux, va en fait renforcer une politique de définition d'un apartheid à très très grande échelle, où on aurait un petit tiers de la population du monde qui a le droit de circuler partout, et deux gros tiers qui a juste le droit de rester là où on lui dit. Et c'est ça qui me gêne.
Dernière question, et je vous libère, Claire Rodier. À propos de l'actualité qui est de faire payer aux ressortissants étudiants étrangers, je ne sais plus combien de fois plus cher que...
10 fois.
10 fois, c'est ça, oui, j'allais dire 5 fois, 10 fois, vous voyez. Le chiffre est important, le chiffre est alarmant. Et C'en est scandaleux, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que...
Il y a
des mobilisations quand même là-dessus.
Il y a de la résistance, et y compris certains présidents d'université, soit spontanément, soit sous la pression quand même d'une mobilisation des enseignants ou de certains étudiants, ont pris la décision de ne pas appliquer. Hein, c'est, donc ça veut dire que ça va leur coûter très cher.
Et je connais des enseignants qui vont être sur ce positionnement-là, et c'est important.
Les choix vont en baver sur le plan financier parce que les dotations, elles sont pas, voilà, elles vont pas suivre. Donc ça veut dire que c'est sur leurs propres ressources. Hein, moi j'ai trouvé ça assez encourageant. Sur le fond, ça traduit effectivement les choix de ce gouvernement, mais de sélection. On est de façon caractéristique dans une logique de sélection des étrangers par l'argent. On a la sélection des étrangers par les compétences. On essaye d'attirer les plus compétents et on essaye aussi d'attirer les plus riches. C'est assez net. Et quand on sait que, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, la grosse majorité, encore maintenant, d'étudiants d'Afrique francophone, c'est vers la France qu'ils sont tentés d'aller.
Par rapport à la langue, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, bien sûr.
Et parce qu'il y a de la famille.
Alors
ça commence à bouger, hein. Ils ont compris que la France n'était pas un pays accueillant, et maintenant ils commencent à partir beaucoup aux États-Unis, au Canada. Mais c'est clairement un message à cette population-là. C'est on ne veut plus de vous, quoi.
Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets, aux réticents. C'est le titre de votre ouvrage, Claire Rodier. Merci d'être venue
à
Beurre FM ce dimanche. Et nous aurons l'occasion de nous revoir, parce qu'il y a revoir vous, en tout cas, les militants, les engagés de ce combat d'égalité entre les migrants français et immigrés, puisque c'est aussi le vrai combat qui est à mener aujourd'hui. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte, et il est vraiment un petit livre pratique et vraiment, je le répète, un outil de connaissance et d'interrogation, de réponse à des interrogations qui sont des interrogations, j'allais dire, basiques autour de ces questions de migrants et réfugiés. Merci encore d'être venu ce dimanche.
Merci.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chère pays de mon enfance.
voix au chapitre sur Beurre FM.